Automne 2025, la France cherche un budget capable de rétablir les comptes publics. À gauche, on veut augmenter les impôts, notamment des plus fortunés. À droite, on veut que l'État coupe dans certaines dépenses. Et il y a une personne à droite qui a une idée pour faire des économies, c'est Laurent Wauquiez.
En France, on peut toucher plus d'argent avec les aides sociales qu'en travaillant, et c'est ce que je voudrais qu'on regarde ensemble. On va prendre la situation d'un couple sans activité avec trois enfants. Au total, vous arrivez facilement à 2300 euros. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai la solution que nous on pousse avec la droite républicaine, une allocation sociale unique avec la garantie qu'il y a toujours un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistanat.
Laurent Wauquiez parle de l'assistanat, l'idée que les aides sociales poussent les bénéficiaires à se maintenir dans leur situation, en l'occurrence ici, en ne travaillant pas. Comment est-on arrivé à ce discours qui critique, voire stigmatise, ceux qui bénéficient des aides sociales? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce podcast.
Vous écoutez Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. Vous, les assistés, un épisode signé Loris de Siéchy.
Pour comprendre comment l'assistanat est arrivé dans le débat public, il faut remonter le temps et revenir à la France de 1995. Cette année-là, Jacques Chirac espère être celui qui fera revenir la droite à l'Élysée après 14 ans de socialisme. Mais dans son camp, le RPR, il a un opposant, Édouard Balladur, actuel Premier ministre en cohabitation avec François Mitterrand. Et c'est Édouard Balladur qui fait la course en tête dans les enquêtes d'opinion. Alors, pour se différencier, le camp de Jacques Chirac va faire campagne sur une thématique, la lutte contre la fracture sociale, ce sentiment d'exclusion créé par le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. C'est en prônant cette cause que Jacques Chirac va inverser la tendance. Non seulement il va se qualifier au second tour de la présidentielle et éliminer Édouard Balladur, mais il va battre Lionel Jospin, le candidat socialiste. Le 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. Mais très vite, les choses se compliquent. Car quelques années plus tôt, en 1992, la France a ratifié le traité de Maastricht, un traité européen créant l'euro. Les pays doivent donc maîtriser leurs déficits et réduire leurs dettes s'ils veulent adopter la monnaie unique. Mais voilà, les critères prévus par le traité ne sont pour l'heure pas respectés par la France, l'exécutif doit donc serrer la vis. C'est pourquoi, en octobre 1995, Jacques Chirac change de ton et annonce, face à Alain Duhamel, que la lutte contre la fracture sociale ne doit plus être la première priorité du gouvernement.
En vous écoutant là, est-ce que c'est exagéré de dire que la réduction des déficits, c'est devenu aujourd'hui, à vos yeux, la priorité des priorités et le préalable des préalables à toute autre action ?
France 2, 26 octobre 1995.
Il n'est pas possible d'imaginer que nous puissions rendre la confiance à l'intérieur, et nous y viendrons quand nous parlons des taux d'intérêt,
je vous en ferai parler.
Et la confiance à l'extérieur, qui est également très importante, si nous continuons à avoir une gestion qui n'est pas rigoureuse de nos finances publiques.
Pour rétablir les comptes, l'État veut augmenter les impôts des Français. Mais pour faire passer la pilule, le Premier ministre Alain Juppé veut s'attaquer à la fraude aux aides sociales. C'est le début de l'assistanat, l'idée que des personnes bénéficieraient d'aides injustifiées. Vincent Dubois est professeur à Sciences Po Strasbourg. Il est l'auteur d'un ouvrage « Contrôler les assistés, genèse et usage d'un mot d'ordre ». Dans son livre, il revient longuement sur l'évolution des pratiques de lutte contre la fraude sociale et évoque notamment le contenu du plan Juppé de 1995, dont les Français n'ont retenu que la réforme des retraites.
Ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'avec le plan Juppé, il y avait toute une série de réformes structurelles de la sécurité sociale. Alors, je ne vais pas rentrer tout à fait dans le détail technique, mais il y en a quelques-uns qui sont tout de même importants. C'est quoi ? C'est l'établissement des conventions d'objectifs et de gestion. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ? Il désigne des documents qui sont établis par le gouvernement en lien avec les caisses de sécurité sociale et qui vont donc contractualiser des programmes de gestion des caisses de sécurité sociale, hein, dans les cinq branches de la sécurité sociale, ce qui va constituer une transformation en fait des équilibres des pouvoirs, hein, au profit du gouvernement, qui va être beaucoup plus présent dans le contrôle des finances et dans le gouvernement de la sécurité sociale. Comme par hasard, hein, dès la première convention d'objectifs et de gestion, eh bien, parmi les indicateurs chiffrés et parmi les objectifs qui sont mobilisés et promus, il y a des objectifs de limitation de la fraude. Donc ces conventions d'objectifs et de gestion vont être un levier, si vous voulez, pour le gouvernement d'introduction d'objectifs de lutte contre la fraude, en joignant les caisses de sécurité sociale à mettre en place des protocoles de contrôle qui existaient, bien sûr, depuis la création de la sécurité sociale, il y a des dispositifs de contrôle, mais qui vont conduire à ce que ce qui était des pratiques bureaucratiques relativement routinières deviennent des axes des politiques publiques et en l'occurrence des politiques sociales.
C'est donc à partir de 1995 que la politique va s'emparer de la lutte contre la fraude sociale. Très vite, au nom de la bonne gestion des finances publiques, la Cour des comptes va aussi intensifier ses contrôles. Il est même arrivé que l'institution refuse de certifier certains comptes de la Sécurité sociale, estimant que l'État ne s'est pas suffisamment engagé dans la lutte contre la fraude. C'est donc tout un mouvement répressif qui va s'enclencher en même temps, mais qui ne va pas susciter une très forte opposition.
Au début de la mise en place de cette orientation, je dirais, il y a effectivement des critiques qui émanent tant du monde politique que, y compris du monde journalistique, où on énonce la chasse aux pauvres, des politiques de stigmatisation, monter les Français les uns contre les autres. Il y a également aussi une thématique qui revient assez souvent, c'est que la mise en place de dispositifs de surveillance nous orienterait dans une version modernisée du 1984 de George Orwell, etc., etc. Mais ce qui est très frappant, c'est de montrer que finalement, assez rapidement, ces critiques vont s'émousser, s'épuiser, et sans qu'on puisse postuler une conversion généralisée à cette manière de penser et à la légitimité de ces objectifs, on voit donc qu'il y a des formes de ralliement au moins passif et une forme de diffusion de l'idée selon laquelle il est inévitable, normal, naturel, légitime de lutter contre la fraude de la manière dont c'est le cas. Et donc, c'est ce que j'ai pu montrer à la fois en regardant les débats politiques, par exemple à l'Assemblée nationale, où on voit une montée en puissance de cette thématique et un affadissement des critiques, qui sont de plus en plus cantonnées à l'aile la plus à gauche de l'échiquier politique, avec de façon récurrente notamment des députés communistes qui développent l'argument selon lequel il faudrait s'attaquer à la fraude des gros et pas à la fraude des petits. Du côté de ce qu'on appelle la gauche de gouvernement, là il y a un affadissement très très net. Et peu ou prou, on observe le même type d'évolution dans le champ journalistique. Des journaux comme, je sais pas, Le Monde ou Libération, encore au début, milieu des années 90, produisaient assez souvent des articles critiques, etc. On voit que ça s'affaiblit très nettement. Dans le même temps, plutôt au début des années 2000, il y a à l'inverse un investissement très fort de cette thématique par des hebdomadaires du type... faire graduellement, je dirais, Valeur Actuelle, Le Point, L'Express, Le Nouvel Observateur, qui, à certaines périodes, font trois fois par an leur une sur la France qui triche ou ce genre de choses.
En parallèle, les techniques de détection s'amplifient. L'objectif, déceler parmi les bénéficiaires qui sont les profiteurs, ceux qui, en raison des critères trop souples, bénéficient des aides de l'État à l'excès. Sous Jacques Chirac, l'État va donc multiplier les contrôles de ce que l'on appelle alors le train de vie des allocataires, mais aussi sanctionner plus sévèrement les fraudeurs et les chômeurs en matière de recherche d'emploi. Plus tard, dans les années 2000, il y en a un autre à droite qui va faire de la lutte contre l'assistanat un marqueur politique, c'est Nicolas Sarkozy.
Quatrième visite à Rungis, cette fois Nicolas Sarkozy est candidat à l'élection présidentielle et vient tester son thème de campagne.
France 2, 1er février 2007.
Ce matin je suis venu à Rungis pour voir la France qui se lève tôt, parce que je pense toujours que le problème de la France, c'est le travail.
Les Français au boulot, et il y aura moins de clodo. Pour faire travailler les gens, merci beaucoup.
C'est extrêmement frappant de voir dans le cas de Nicolas Sarkozy comment il s'est saisi de cette thématique de manière très précoce, c'est-à-dire dès qu'il était candidat à l'investiture de l'UMP pour la candidature à l'élection présidentielle, puis dans la campagne présidentielle, puis dès son élection. Et de nouveau tout au long de son quinquennat, et de nouveau lorsqu'il était candidat à sa propre succession. Et donc dans le livre, j'ai pu établir la proportion des meetings de campagne dans lesquels effectivement cette thématique était abordée. Elle est très très fréquemment abordée, avec parfois des meetings qui sont thématisés, où c'est la seule question ou la question principale qui est posée. Ou lorsque Nicolas Sarkozy est président de la République, des allocutions présidentielles, comme celle du 14 juillet par exemple, qui consacre une partie substantielle du temps de parole du président à cette question-là.
Pour autant, le quinquennat de Nicolas Sarkozy n'est pas marqué par une réforme majeure dans ce domaine. Mais les contrôles des allocataires se multiplient. Une façon pour l'État de donner des résultats rapides, visibles et une bonne image de l'action publique. Cette surenchère de contrôle a cependant un effet néfaste. Elle conduit l'État à chercher les fraudes sans vraiment mesurer la rentabilité de son action.
Dans mon livre, j'appelle une course sans ligne d'arrivée. Un dispositif en appelle un autre. On a des indicateurs de performance. Dès que les objectifs ont été atteints, on se dit en fait on peut aller encore plus loin. Et donc dans une espèce de surenchère continue dont on ne voit pas l'aboutissement. L'objectif, au moins implicite, c'est zéro fraude. Ce qui est absolument impossible, ou zéro erreur. Et ce qui est frappant, c'est que dans toute une série d'autres domaines, par exemple les assurances, on considère qu'il y a un niveau de risque acceptable. On sait qu'il y a environ 15% des remboursements d'assurance qui sont frauduleux. Bon, c'est quand même pas du tout négligeable. Mais c'est ensuite répercuté dans le montant des polices d'assurance et c'est considéré comme un niveau de risque acceptable, c'est-à-dire que s'il fallait aller en deçà de ce niveau, il faudrait dépenser une énergie et un argent qui, finalement, ne serait pas totalement bénéficiaire, quoi. Il n'y a pas du tout cette notion de risque acceptable en matière de prestations sociales. Et donc, tant qu'on n'arrive pas au 0% de fraude, ce qui n'arrivera jamais, on n'arrête pas la surenchère dans de nouvelles initiatives et le durcissement des dispositifs existants.
Et cette idée que des personnes précaires abuseraient de la solidarité nationale va aussi infuser au sein de la gauche. Écoutez ces quelques mots prononcés par un président socialiste.
Nous devons faire des économies partout où elles sont possibles.
François Hollande, 31 décembre 2013.
Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Pour la sécurité sociale, qui est notre bien le plus précieux, qui doit en terminer avec les excès, nous les connaissons, et les abus, parce qu'ils mettent en cause l'idée même de la solidarité.
Ou encore, les propos de Manuel Valls quand il s'oppose à l'idée d'un revenu universel.
Moi, je suis pour une société du travail, pour la dignité que procure le travail.
France Info. 10 janvier 2017.
Je suis pour une société du travail, de la solidarité. Je ne suis pas pour une société de la cistana ou du farniente. Je pense qu'une société a besoin des salariés, ont besoin des citoyens, ont besoin de travail.
Sous la présidence de François Hollande, aucune mesure répressive, adoptée lors des mandats précédents, n'a été remise en cause. Preuve que l'idée a aussi fait son chemin dans l'esprit des socialistes. Et Emmanuel Macron, s'est-il lui aussi inscrit dans cette continuité? En 2018, alors que le chômage commence à baisser mais reste très fort dans le pays, il veut responsabiliser les allocataires, c'est-à-dire leur faire comprendre que les aides ne sont pas éternelles.
On met trop de pognon on déresponsabilise et on est dans le curatif.
Emmanuel Macron, 12 juin 2018.
La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. C'est le truc par l'éducation, il ne faut pas refaire un discours de congrès, mais hein, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est narratif. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté.
Vous l'aurez donc compris. Pendant plus de 20 ans, les responsables politiques au pouvoir se sont rapprochés idéologiquement pour se mettre d'accord sur un point. Certains Français profitent du système. Tout un arsenal législatif et réglementaire s'est développé en conséquence, provoquant ainsi deux effets. Le premier vise les bénéficiaires. Pendant deux décennies, l'administration a augmenté le nombre de contrôles, mais aussi renforcé ses moyens d'action, avec plus de personnel dédié à cette mission et plus de moyens technologiques pour gagner en efficacité. Les algorithmes entrent eux aussi dans la partie. Et les systèmes de prédiction vont amener les contrôleurs à cibler plus précisément certaines franges de la population, les étrangers, les chômeurs et les femmes seules. Car les algorithmes estiment que ces profils ont une plus grande probabilité de frauder en raison du nombre plus important d'aides qu'ils perçoivent, donc en fonction de leur précarité. Le deuxième effet concerne les contrôleurs eux-mêmes. Ils vont, progressivement, voir la lutte contre la fraude sociale comme une mission ordinaire.
Lorsque j'ai fait mes premières enquêtes qui datent du début des années 2000, donc on était au début de l'essor véritable des politiques de contrôle, il y avait encore à cette époque-là un certain nombre, je dirais, de dilemmes hein, où on considérait dans les caisses de sécurité sociale, en l'occurrence les caisses d'allocation familiale, on considérait que, bon, certes, le contrôle était nécessaire, mais c'était une sorte de mal nécessaire, que la vocation de l'institution, c'était quand même beaucoup plus d'aider les pauvres que de les contrôler et de les sanctionner. Les contrôleurs pouvaient être un peu mal à l'aise avec leurs fonctions dans certains cas, ou en tout cas ne pas forcément être très bien considérés dans leur institution. Hein. Il y avait peu de ce que, y compris des rapports institutionnels, appelaient une culture de contrôle dans ces organismes. Plus les politiques de contrôle se sont développées, plus les moyens alloués au contrôle ont augmenté, plus le débat public a mis en avant l'importance des fraudes et la nécessité du contrôle, plus le contrôle, y compris au sein même des organismes de protection sociale, est devenu quelque chose de considéré comme normal, nécessaire, avec donc une légitimité bien plus forte qu'auparavant.
Et maintenant, en 2025, peut-on s'attendre à l'avenir à un changement de perception sur les aides sociales par nos politiques?
Ce que je peux dire sur la base des enquêtes que j'ai réalisées et des différents mécanismes qui ont conduit à ce que j'ai appelé cette surenchère ou cette course sans ligne d'arrivée, c'est que les conditions de perpétuation de cette logique sont toujours réunies et que, à l'inverse, il faudrait des conditions radicalement différentes pour que cette mécanique s'enraye et qu'on revienne sur des orientations différentes. Un changement politique radical, une conversion des élites administratives à d'autres manières de penser, effectivement un état des finances publiques qui permettent des débours en matière de protection sociale plus importants, autant dire que ces conditions apparaissent très très difficiles à réunir dans un avenir proche et même à moyen terme. Je ne vois pas de raison pour que ce processus soit remis en cause. Et s'il faut faire une prévision, je dirais qu'il y a toutes les chances que ce processus continue, maintienne en l'état actuel l'intensification ou l'intensité des contrôles, voire contribue à les accentuer encore.
C'était Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Loris de Sieschi en novembre 2025. Coordination, Céline Asselot et Thomas Rozek. Mixage, Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.